Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme toutes celles et ceux qui ont grandi en bouffant à la chaîne des kilomètres de livres, de films et de BD mettant en scène des univers dystopiques dans lesquels les robots et les ordinateurs ont pris le pouvoir, j'ai comme qui dirait un léger sentiment d'appréhension lorsqu'on en vient à parler d'intelligence artificielle. Alors certes, le terme un peu fourre-tout sert surtout à nous vendre des enceintes capables de nous dire quel temps il fait ou des voitures qui conduisent toutes seules. On est encore bien loin de Skynet et des Terminator. Pire encore, figurez-vous que la plupart du temps, derrière ce paravent d'artificialité et de prouesses technologiques, il y a surtout beaucoup d'intelligence humaine et de labeur très ingrat. En fait, l'IA, c'est nous, et on va vous le prouver avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer cette réflexion, je suis allé à la rencontre de mon confrère Sofian Fanen. Il est journaliste pour le site Les Jours, où il écrit notamment sur les usages numériques. Il signe en ce moment une série d'articles sur les coulisses de l'intelligence artificielle et les petites mains qui permettent aux géants du numérique de nous vendre les révolutions de demain. Ces ouvriers du web, on les trouve notamment sur une plateforme Amazon Mechanical Turk, qui comme son nom l'indique appartient à Amazon. Alors c'est quoi précisément? Et ben ça, je laisse Sofian vous l'expliquer.
Amazon Mechanical Turk, c'est une plateforme donc créée par Amazon, comme son nom l'indique, en 2005, qui est en gros une plateforme de mise en relation entre des employeurs et des travailleurs. Fondamentalement, c'est ça. Amazon a créé cette plateforme à l'époque. Ils cherchaient à dédoublonner leur magasin en ligne. Ouais. Quand ils ont commencé à vendre plus que des livres, et même avec les livres, ils avaient déjà un problème. Et notamment quand ils ont aussi accueilli d'autres vendeurs tiers, etc. Ils avaient des doublons, ils avaient des problèmes pour ranger tout ça, nettoyer tout ça. Ils ont commencé par embaucher des travailleurs qui payaient à la journée, notamment en Inde, ils en ont embauché des centaines, et ils ont calculé qu'il faudrait plus de 15 ans pour faire, pour nettoyer la base de données à un moment donné, sachant que la base, elle évoluait tout le temps. Et donc, ils ont retourné le truc, et ils ont créé une plateforme où n'importe qui, avec un compte Amazon, pouvait se mettre à travailler au début des bons d'achat sur Amazon, puis un petit peu d'argent, et travailler notamment à nettoyer cette base, et ça a pris moins de 3 ans, avec plus de 15 000 personnes qui ont travaillé, certains beaucoup, d'autres très peu, et ils ont comme ça nettoyé la base de données d'Amazon, et alors ça continue sur Amazon Mechanical Turk, Amazon est présent pour ça, et Amazon a ensuite ouvert cette plateforme de mise en relation de travailleurs à qui veut, ouais. Et donc on peut aller sur Amazon Mechanical Turk et faire travailler donc des gens inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Inde, et qui vont réaliser des tâches extrêmement diverses, typiquement faire de la retranscription de tickets de caisse. Il y a beaucoup de retranscriptions de tickets de caisse. Il y a beaucoup de retranscriptions de cartes de visite, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'on pense pouvoir confier à un ordinateur, ouais. Mais qu'un ordinateur fait pas bien ou avec trop d'erreurs pour que ça soit valable.
Par exemple ?
Par exemple, voilà, les cartes... moi, j'ai fait un travail parce que je me suis inscrit donc, sur Amazon, ouais. Mechanical Turk comme travailleur lambda, et je me suis retrouvé à faire... à devoir marquer les bords de vieilles cartes 18e, 19e, voire même plus anciennes que ça, scannées. Et les bords étaient assez bien marqués, mais des fois, la côte, il y avait des montagnes, c'était des côtes de l'Oregon, et il y avait les montagnes, la côte, etc., qui débordaient un peu en dehors du cadre de la carte elle-même. Et n'importe qui, avec deux yeux, peut voir que oui, là, c'est le bord gauche, bord haut gauche, haut droit, etc. Donc, il fallait marquer avec des carrés de couleurs, c'était très bête. Mais effectivement, on comprend pourquoi... Un humain le fait très facilement, parce qu'on comprend que, bah là, oui, ok, en fait, le mec qui a dessiné, il s'est amusé à dessiner la montagne qui continue, ouais. Sur 3 cm en dehors de la carte parce qu'il trouvait ça joli, mais très concrètement, la carte, elle s'arrête. Par contre, un ordinateur, lui, pour lui, en fait, il voit pas où ça s'arrête parce que c'est pas normé. Un ordinateur, on lui dit, bah voilà, si A égale A, il n'y a pas de problème, il comprend. Mais si A égale A plus B, bah en fait, il ne comprend pas que c'est quand même A. Et du coup, il faut de l'humain. Et ce qu'Amazon propose, en fin de compte, c'est de monnayer le sens commun de l'humain. Le sens commun, c'est ce qu'on a tous, on ne sait pas vraiment le définir, c'est notre fond culturel qui nous rapproche. On a un sens commun entre Français de France, les Allemands ont un autre sens commun, mais un Allemand qui habite en France va se rapprocher du sens commun français, etc. etc. Et c'est des choses comme ça qu'on sait faire, qu'on comprend. On comprend pourquoi on fait ce choix quand on fait partie d'une même communauté, et c'est ce qu'Amazon vend sur Amazon Mechanical Turk en bonne partie.
Tu le disais, tu t'es inscrit sur Mechanical Turk. Qu'est-ce qu'il a fallu donner, fournir comme info à Amazon ?
Alors, c'est très basique. J'ai eu de la chance parce qu'ils ont refermé la plateforme pour les Français. En fait, Amazon Mechanical Turk est ouvert pour les Américains. Et ensuite, ça vient selon les pays. Pour les Français, au moment où je me suis inscrit, c'était ouvert. Ça s'est refermé depuis. Je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai découvert plus tard. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut un compte Amazon. Il faut un nom, prénom, une adresse physique. Et c'est tout. Alors, en plus, je me suis inscrit sous un faux nom, parce que je n'avais pas envie qu'on me repère ou que, voilà, que les choses soient flagrantes. Comme ça, je voulais opérer comme journaliste un peu caché. J'ai trouvé un faux nom, j'ai trouvé une rue dans une ville où je n'habite pas, une rue qui existe, hein, avec un numéro qui existe, mais en tout cas, je n'y habite pas du tout. Et c'est tout. Il faut ensuite cocher une case disant qu'on n'est pas citoyen américain, ouais. Et donc qu'on n'est pas soumis aux impôts américains. Et à partir de là, Amazon s'en moque, mais totalement. On pourrait faire tout ce qu'on veut. On pourrait blanchir de l'argent. Bon, c'est un peu compliqué de blanchir de l'argent avec Amazon Mechanical Turk parce qu'on gagne 2 ou 3 dollars par heure, maximum peut-être 20 dollars par heure en bossant comme un chien. Donc, blanchir de 20 dollars par heure, c'est pas très valable. Mais on peut vraiment...
On peut ne pas le déclarer, en tout cas.
On peut ne pas le déclarer. Et puis surtout, on voit à quel point Amazon se contrefout bien de ses employés. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas du tout de relations et d'intérêt et de travail. D'ailleurs, Amazon est absolument absent. C'est marqué Amazon Mechanical Turk, point. Oui. Et ensuite, il n'y a aucun mail pour contacter quiconque. Il n'y a pas un mail, pas un numéro de téléphone, rien. Quand on a un problème avec un employeur, on ne peut rien faire. Amazon peut suspendre un compte. Il y a des gens qui se font suspendre leur compte, etc. Parce qu'ils ont été mal notés, dénoncés par un employeur, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a aucune procédure pour faire une réclamation, ce qui pose problème parce qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps sur cette plateforme désormais. Donc voilà, on est vraiment livré à nous-mêmes et ça commence par l'inscription elle-même où on peut s'inventer un personnage avec un faux compte Amazon et puis c'est parti.
Oui, c'est une dérégulation complète et totale, on va dire, du travail. C'est même le cynisme, on va dire, du truc est poussé jusqu'à l'extrême, parce que rien que le nom du Turc mécanique, c'est quelque part une référence un peu cynique au Turc mécanique du XVIIIe siècle.
Oui, et pour le coup, on peut pas enlever à Amazon que le cynisme est affiché. Ouais. Et d'ailleurs, Jeff Bezos, c'était en 2016, lors d'une conférence, a proposé le terme de ce que je disais qu'ils vendent du sens commun. Ouais. Et ils vendent le sens commun de l'humain, notamment pour enrichir et tester les intelligences artificielles. Et Jeff Bezos a inventé le terme d'intelligence artificielle. Donc on est dans un cynisme total. Ouais. Le Turc mécanique, c'est un automate au 17e, qui joue aux échecs et qui était censé être super fort aux échecs. Il pouvait battre n'importe qui et effectivement il battait n'importe qui. Donc l'automate bougeait tout seul, il était déguisé en turc, voilà, on était vraiment dans la représentation raciste de l'époque. Il avait c'était vraiment, il avait l'habit, etc. C'était vraiment catastrophique. Et en fait, on a découvert plus tard que cet automate était une arnaque et qu'il y avait quelqu'un caché dans l'automate. Alors, selon les versions, c'était une personne de petite taille, c'était un enfant, c'était quelqu'un qui avait perdu ses jambes. Enfin, voilà. De toute façon, c'était quelqu'un qui pouvait tenir dans la boîte en dessous et qui faisait bouger les pièces d'échecs avec des aimants, en fait, qui voyait dessous. Il faisait bouger comme ça les pièces d'échecs. Et en fait, donc, c'est la métaphore de la machine qui cache en fait un travail humain bête et méchant, mais un travail humain qui est rabaissé, qui est caché, anonymisé, et qui n'est pas du tout respecté. Alors que celui qui faisait vraiment le travail dans le Turc mécanique, c'est la personne qui était à l'intérieur de l'automate et qui jouait effectivement aux échecs et qui jouait bien, parce qu'il a battu quand même des très grands joueurs de l'époque. Donc cette personne qui tenait dans cette boîte arrivait à jouer à l'envers, en plus par en dessous, et à battre des maîtres d'échecs à l'époque. C'était fort.
Derrière cet exemple des plus parlants, il y a donc tout un monde que les géants du net ont plutôt intérêt à maintenir un minimum dans l'ombre. Un monde qui intéresse tout particulièrement un universitaire, Antonio Casilli. Il est sociologue, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et chercheur à l'EHESS. Il vient de signer le livre « En attendant les robots » qui est paru aux éditions du Seuil, dans lequel il nous plonge dans les méandres de ce que lui appelle le « digital labor ». J'ai donc commencé par lui demander quelle réalité recouvrait ce terme.
Alors, digital labor, le nom l'indique, est un travail du doigt. Donc, digital au sens de latin du terme digitus, c'est aussi un travail numérique dans la mesure où il a lieu sur des plateformes numériques. Et c'est un travail qui se caractérise par le fait d'être tacheronisé, c'est-à-dire réduit à des tâches extrêmement simples, standardisées, extrêmement fragmentées, et aussi parce que c'est un travail qui produit de la data. Donc on l'appelle aussi un travail datafié, c'est-à-dire un travail avec lequel on génère, on dit comme ça, de la valeur et des informations et des métadonnées, et tout cela sert à nourrir les grandes plateformes qui par la suite s'en servent aussi pour produire des systèmes automatiques, donc ce qu'on appelle les IA.
Vous, vous définissez en gros trois grandes familles de travailleurs numériques, de travailleurs digitaux. C'est quoi ces trois familles ?
Alors, la première est certainement la plus visible, et celle qu'on voit circuler dans nos rues, c'est le travail à la demande, ce qu'on a appelé pendant un moment la sharing economy, l'économie collaborative, c'est les Uber, les Deliveroo et autres services comme TaskRabbit par exemple. Donc on peut commander du travail humain à flux tendu grâce à une application mobile. L'application mobile permet par exemple d'avoir pendant une heure quelqu'un qui vient faire des courses pour vous ou ranger des choses chez vous, ou quelqu'un qui vous livre une pizza ou alors qui vous dépose à un endroit de la ville. Alors, on se dirait en quoi cela est digital, en quoi cela est un travail qui produit de la data. En réalité, les personnes qui se servent de ces applications, autant les travailleurs que les consommateurs, sont des producteurs de données parce qu'ils passent leur temps sur une application mobile qui est très data-bor. Et la deuxième famille de digital-abor, ce qu'on appelle les micro-travailleurs. C'est des foules de personnes, des myriades de personnes qui sont recrutées, je répète, pas employées, sont recrutées pour réaliser des micro-tâches. Ce sont des tâches qui, par exemple, prennent une minute ou quelques minutes et qui sont payés, rémunérés très faiblement. Donc, ils sont rémunérés, par exemple, à la hauteur de quelques centimes. Et donc, à la limite, on se pose tout de suite la question de qui est prêt à réaliser des tâches comme ça. Et donc, il y a énormément de données empiriques qui attestent du fait que, souvent, c'est des personnes qui sont résidents ou ressortissants de pays, des pays en voie de développement ou des pays émergents. La Chine, l'Inde, mais aussi, si on va voir du côté des pays en voie de développement, le Venezuela, l'Indonésie, Madagascar, par exemple, pour le côté francophone, sont des bassins de micro-travailleurs. Mais il ne faut pas non plus penser que nos pays sont à l'abri de ça. Selon notre enquête qui s'appelle Deep Lab, qui est une enquête sur le micro-travail en France, rien que dans l'Hexagone, il y a 266 000 travailleurs du CLIC qui passent leur journée, par exemple, à labelliser des images, taguer des contenus, regarder des extraits de vidéos pour, par exemple, détecter des objets ou des situations, écouter des bribes de conversation pour entraîner les enceintes connectées, ou retranscrire des bouts de texte, anonymiser des CV. Donc, bref, il y a énormément d'activités qui, normalement, devraient être automatisées et qui ne le sont pas, finalement. La troisième famille de digital labor, donc ce qu'on appelle le travail social en réseau, qui est souvent considéré comme le travail gratuit des internautes. Ce travail que vous et moi réalisons chaque fois que nous nous connectons à une plateforme comme Facebook, qui nous invite par exemple à produire des textes, produire des images. Ou alors quand on va sur Amazon, Amazon le catalogue, oui. Le catalogue se nourrit de nos commentaires, de nos notes, ou alors YouTube, ou Reddit, bref, toute plateforme qui, d'une part, cherche évidemment à stimuler la participation, et en stimulant la participation, incite aussi à produire des contenus, mais ce n'est pas les contenus qui sont intéressants. Au fait, ces plateformes se nourrissent de données et de métadonnées. Aujourd'hui, à la fin des années 10 du 21e siècle, ces plateformes ont des modèles d'affaires qui sont largement basés sur une innovation de type technique, donc ce qu'on appelle les intelligences artificielles, ce qui est une manière de dire qu'elles se servent des données et des informations produites par les utilisateurs pour entraîner des systèmes de machine learning. Et le machine learning, grosso modo, c'est des techniques qui permettent de développer des solutions logicielles apprenantes. Mais qui dit apprenant, dit aussi que quelqu'un doit enseigner. Et c'est quelqu'un, c'est nous.
Ce qui me frappe, moi, derrière tout ça, c'est les conséquences directes sur le travail, de manière générale. Est-ce qu'on n'assiste pas, via ces outils numériques et via ce boom, on va dire, de la pseudo-intelligence artificielle, à une recréation d'un sous-prolétariat, pour le coup très vintage, pour le coup, qui est une notion très très ancienne, mais que finalement... Par le jeu du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, on est en train de recréer.
Alors certainement, il y a certains aspects de ce digital labor qui semblent pousser à l'extrême les pires aspects du taylorisme, donc de la fragmentation des tâches, du travail à miettes, comme on disait dans les années 50, pour parler du système de l'usine. Par contre, c'est, à la limite, c'est même pire que ça, parce qu'au moins les ouvriers à l'usine, dans le cadre du salariat classique, de l'institution salariale classique, étaient subordonnés, certes, subissaient des formes d'aliénation, certes, mais en même temps, ils avaient, au moins comme contrepartie, des formes de protection sociale. Or, ce qu'on voit aujourd'hui avec les chauffeurs Uber, malgré leur lutte, avec les micro-travailleurs, malgré effectivement leur tentative de s'organiser, et certainement, on le voit chez les personnes qui font du travail gratuit sur les plateformes, et que d'une part, on n'a pas de conscience, et de l'autre, il y a aussi, ou alors la conscience est difficile à faire émerger, et de l'autre, on a aussi des problèmes qui poussent vraiment vers une situation qui est presque pré-industrielle, ou alors du premier industrialisme. Quand, en France, par exemple, on avait affaire à un marché du travail qui n'était pas peuplé d'ouvriers, mais de tâcherons, de piéçards, de personnes qui travaillaient à la pièce, souvent depuis chez eux, organisées dans des ateliers, et du coup, ils avaient certainement beaucoup plus de volatilité et de précarité qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas, donc, justement, un emploi formel. Par contre, de leur côté, les ouvriers du premier industrialisme, du système, ce qu'on appelle le marchandage, donc le système des tâcherons, des piéçards, par contre, ils avaient une marge d'autonomie par rapport à leurs employeurs, qui était beaucoup plus développé que les micro-tâcherons d'aujourd'hui. Les ouvriers du clic des plateformes à la Amazon Mechanical Turk ou d'autres, parce qu'il y en a 10 000 autres, ont aujourd'hui une situation de subordination extrême et ils n'ont par contre aucune contrepartie en termes de protection, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas un contrat de travail. Ils ont un contrat qui est un contrat de participation plutôt, où ils sont assimilés à des autres entrepreneurs qui donc, réalisent une prestation presque de consulting pour la plateforme.
Finalement, est-ce que la plus grande menace pour tout ce qui concerne les IA, ça n'est pas comme cette vieille crainte de science-fiction que les robots prennent le contrôle, mais que quelque part... les robots, ou en tout cas ce qu'on considère comme des robots, participent à la destruction de nos droits sociaux? et du travail de manière générale.
La plus grande menace, c'est les patrons des robots, ou alors ceux qui font semblant d'avoir développé des solutions robotiques, automatiques, intelligentes, et qui en réalité sont animés par une volonté de discipliner leurs forces de travail en les soumettant à cette promesse dystopique de se faire remplacer. C'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de n'importe quel travailleur aujourd'hui, surtout des travailleurs des plateformes numériques, qui déjà sont recrutés avec, disons le pacte implicite qu'ils travaillent pour préparer leur propre départ ou leur propre remplacement. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, ou alors du moins c'est ça qu'on veut leur faire croire. Le problème principal est que tant qu'on est confronté à ce type de rhétorique, ces travailleurs n'ont pas d'incitation à s'organiser. Et ça, c'est un problème principal en termes d'émergence, comme on le dit parfois avec des termes un peu jargonnants en politique, un problème en termes de constitution de classe, donc en gros, et même de composition des luttes. À quel moment on arrive à identifier qu'un chauffeur Uber, un créateur de contenu sur YouTube et un modérateur Facebook partagent le même destin professionnel. Comme à un moment, dans les siècles passés, on est arrivé quand même à développer une conscience du travail qui a fait en sorte qu'un avocat et un paysan et un ouvrier, ils ont pu dire « nous, on est des travailleurs ». Alors que leurs conditions de vie, leur rémunération, leur encadrement contractuel étaient souvent incomparablement différents. Alors aujourd'hui, on est face à la même situation, sauf que ces personnes-là, donc les micro-tâcherons, les producteurs de données en général, les ouvriers du clic, n'arrivent pas à se voir comme une force sociale. Et donc une force sociale qui, aujourd'hui, peut être... effectivement un interlocuteur et parfois un contradicteur de la seule rhétorique qui semble être hégémonique, dominante aujourd'hui, qui est la rhétorique des producteurs de l'intelligence artificielle, des artificiers de l'intelligence, qui continuent à nous proposer des drones, des algos intelligents, des systèmes de reconnaissance visuelle, sans nous dire, ou alors en invisibilisant continuellement, la contribution humaine. On nous dit c'est un robot et on oublie de dire que ce robot est entraîné chaque minute, encore aujourd'hui, par des personnes. On nous dit c'est un algorithme et on oublie de dire qu'il y a quelqu'un qui calibre en temps réel cet algorithme ou quelqu'un qui a passé des mois et des années à calibrer cet algorithme.
Après cet épisode, deux possibilités s'offrent à vous, elles sont totalement compatibles d'ailleurs. D'une part, lire la série d'articles de Sofian Fanon, Working Class Robot, sur le site Les Jours. Abonnez-vous d'ailleurs au passage, parce que c'est très bien comme site. Et puis, allez faire un tour chez votre libraire favori pour vous procurer le livre d'Antonio Casilli, En attendant les robots, c'est paru au Seuil, et comme ça, vous serez totalement paré. Merci à Sofian Fanon et Antonio Casilli pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.